Le vieux du Marais, un conte par Anatole Le Braz. Nous traversions le vaste pays salin, entre Guérande et le bourg de Batz. Le soleil venait de disparaître, par-delà les dunes orangées de la Turballe, dans un lit de mer éclatante au large plissement de pourpre et d'or. Bientôt ce fut l'heure crépusculaire, l'heure mauve si pleine de charme en ces parages aussi nus que le désert, et qui ne présente comme lui d'autre animation que les jeux de la lumière et de l'ombre. Une paix, une solennité sans égale planaient dans le ciel amplifié par le soir. Les petits carrés symétriques des salines, irradiés comme les mille fragments diversement coloriés d'une verrière immense, tandis que les cônes de sel, semblables à de grands calices renversés, exhalaient dans l'air une véhémente odeur de violette, combiné avec je ne sais quelles autres essences de fleurs inconnues. Par intervalles, sur les minces liserées de terre qui séparent les étangs, une silhouette humaine passait. C'était tantôt quelque saulnier dont la fière statue s'enlevait en noir d'un trait énergique, comme dessiné au burin. Tantôt quelque paludière à la démarche balancée, qui se détachait sur l'écran lumineux du couchant, telle qu'une image de sainte byzantine sur fond d'or. « Remarque, me disait mon ami Bélanger, un fanatique de cette côte qui n'a pas pour lui de secret, remarque combien cette race est belle et hardiment découplée. Mais ces gens-là me font toujours penser aux Arabes des tribus du Sud. C'est la même finesse nerveuse, ce sont les mêmes muscles maigres et durs, c'est la même noblesse enfin, la même élégance innée dans les lignes, les attitudes, les mouvements. » Il reprit après une pause. Et c'est parfois la même âme aussi capable des imaginations les plus gracieuses et des pires férocités. J'allais protester contre ce dernier mot. Il ne m'en laissa pas le temps et me pinçant le coude, « Nous recoserons de cela tout à l'heure. Pour l'instant, ne fais mine de rien. Tu vois le bonhomme qui longe cette vasière, son râteau de paludier sur l'épaule. Je viens de l'apercevoir la seconde. Mais lui, avec son œil aigu de fouilleur d'espace, je gage qu'il y a plus de 20 minutes qu'il m'a reconnu. J'ai vécu un été, naguère, sous le toit de sa cassine, là-bas, dans les faubourgs de Saillé. Depuis, nous avons les relations les plus cordiales. Il use à toute occasion de mon tabac. Sois sûr qu'au premier tournant, il va obliquer vers nous. Eh bien, je te le recommande. Je te dirai ensuite pourquoi. Observe-le seulement, pendant que je l'entretiendrai. Il en vaut la peine. » Le personnage sur lequel il appelait ainsi mon attention fut en effet singulièrement prompt à nous joindre, quoiqu'il eût l'air d'approcher sans hâte, tout en dévorant les distances de son large et paisible compas d'échassier du marais. Il toucha de la main le bonnet de peau de loutre qu'il portait en guise de couvre-chef, malgré la tiédeur de la saison, puis d'un accent qui n'avait rien d'humble ni de quémandeur. « Il y a sans doute encore une pipée dans votre blague pour le père Bourdet. » « N'est-ce pas donc, monsieur Bélanger ?» Il avait déjà sorti de la poche de son gilet à manches un brûle-gueule noirci, calciné qu'on eût dit sculpté dans un fragment de vieille lave, et se mit à le bourrer méthodiquement avec un soin, une lenteur qui me laissèrent tout loisir de le dévisager à mon aise. À juger par les rides de sa physionomie, il pouvait avoir dans les 60 ans bien sonné. Mais la taille, qui était haute, gardait même au repos une robustesse souple et quasi juvénile. L'âge avait effleuré ce vigoureux organisme sans en entamer le ressort, et jusque sous les épais sourcils grisonnants, les yeux fourbis à neuf qu'ont après l'averse les ciels de printemps. Seule, la bouche au coin tiré avait quelque chose de dur et de las tout ensemble, d'impérieux et d'amer. Il ne fut pas sans se rendre compte que je l'examinais à la dérobée, car au milieu de son opération, il lança d'un ton qui voulait paraître jovial, et que l'on sentait un peu contraint, « Une autre fois pour sûr, le monsieur me reconnaîtra. » À quoi Bélanger répartit, « Dame, c'est le moins qu'il vous regarde, ne fût-ce que pour dire qu'il aura vu le roi du Marais. »« Hein ?» fit l'homme, le front subitement rembruni. « Il est passé, ce temps-là. Il n'y en a plus de roi du Marais. » Il avait prononcé « Marail ». À la façon locale, et ce vocable sur ses lèvres, revêtait une ampleur sonore, un je ne sais quoi de lointain, d'exotique et de mystérieux. « Je vous comprends, » insinua Bélanger d'une compassion que je crus sincère. « Vous ne vous consolez toujours pas de l'étrange disparition de Francette ? Voilà près d'un an, si je ne me trompe. Et pas de nouvelles? Rien? Ni d'elle, ni de lui? Le vieux hocha la tête, et d'une voix sourde où grondait quelque haine inexpiable. Oh, lui, il est bien où il est, qu'il y reste. Mais c'est elle que... Il n'acheva pas, se contenta d'esquisser un geste vague, aspira une longue bouffée de tabac, en gonfla ses joues, puis la souffla comme avec colère dans la direction des palus dont les miroirs assombris commençaient à s'éteindre un à un sous les cendres envahissantes de la nuit. « La pipée est bonne, monsieur Bélanger, dit-il pour rompre l'entretien. Et sans autre forme de remerciement, après avoir de nouveau touché son bonnet de peau de loutre, il reprit ses enjambées de héron à travers la vaste plaine aquatique aux confins de laquelle s'égrenaient, dans l'est, les mélancoliques tintements de l'Angélus de Saillé. Nous le regardâmes s'éloigner de son pas à la fois nonchalant et rapide. Par un effet de mirage que ces solitudes ont encore de commun avec le désert, il demeura longtemps visible, avec des proportions plus grandes que nature, et sous l'aspect d'un corps fantomal, comme suspendu entre terre et ciel. « Eh bien, me demanda mon ami, que penses-tu de ce patriarche ? Mais qu'il a belle prestance ! Quel âge lui donnes-tu ? 50 ans ? Peut-être 60 au maximum ? Il en a 76, sinon plus. Et tu as vu quelle verdeur ! Ah, le sel conserve, mon cher ! Il en est une fameuse preuve sous tous les rapports, ce père Bourdé, Tadi Bourdé, comme on l'appelle. Mais avant de poursuivre, qu'as-tu induit des deux ou trois phrases de notre colloque ? Qu'il est inconsolable de la perte d'une certaine Francette, sa fille ou sa petite-fille probablement, qui, fatiguée du collet, trouvant la porte ouverte, sera partie sans laisser d'adresse au bras de quelques galants. N'est-ce point cela ? Le bonhomme, s'il t'entendait, te répondrait qu'effectivement, et sauf des rectifications de détails, tu as deviné juste. Maintenant, écoute, je t'ai dit que j'avais passé un été sous le chaume de Tadi. Il m'avait loué l'unique chambre de l'étage. Lui occupait le bas avec Francette. Une enfant qu'il avait, paraît-il, ramassée à demi-morte quelques 15 années auparavant, un soir d'hiver qu'il braconnait le cygne dans le marais, et depuis lors, tendrement, délicatement couvée par ce vieux sans famille, était devenue la plus jolie, la plus charmante, la plus exquise créature que tu puisses imaginer. Je te montrerai dans mon atelier la copie d'un portrait d'elle que je fis pour le père Bourdet, et devant lequel, d'après le bruit public, il continue pieusement de s'agenouiller chaque soir. Déjà, dès cette époque, l'affection qu'il témoignait à sa Francette n'allait pas sans quelques mélanges un peu troubles. On est religieux en ce pays et les mœurs y sont relativement chastes. Nourri d'espace, de grandes terres, le sang fouetté journellement par les âpres exhalaisons des lagunes, le Tadi d'une constitution si riche et si saine, et resté si jeune malgré l'âge, ne pouvait manquer de porter en lui un monde d'ardeur et de convoitise, d'autant plus impatiente de s'affranchir qu'elles avaient été plus longtemps et plus étroitement refoulées. Les grâces mûrissantes de Francette lui étaient une tentation perpétuelle. Il ne se quittait pas. Elle l'accompagnait le matin à la récolte du sel dans les œillets et s'en revenait avec lui à la tombée du crépuscule vers la petite maison des faubourgs où leur lit n'était séparé que par une cloison. Elle était uniquement attentive à ne le point mécontenter. Il s'attachait de son côté à ne lui pas laisser voir trop ouvertement tout ce qu'il entrait dans sa sollicitude pour elle de calculs inavouables et de désirs presque incestueux. Tant qu'il ne se craignit point de rival dans le cœur de celle qu'il aimait, il dompta sa passion avec une maîtrise d'âme vraiment héroïque. Mais il était dans l'implacable logique des choses que ce rival survint, et il se présenta sous l'espèce la plus haïssable aux yeux d'un paludier, celle d'un douanier, d'un gabelou. C'était l'an dernier. Le préposé Garel, un Nantais récemment nommé à la Turballe, rencontra Francette dans ses tournées, l'aima, trouva moyen de le lui dire et se fit aimer d'elle. Un mois, 2 mois, le vieux ne se douta de rien. Subitement, il apprit tout. Alors ce furent, dit-on, des scènes inexprimables de folie et d'horreur. Le père Bourdet était en proie à une sorte d'épilepsie morale. Tantôt il arrachait la jeune fille de son lit et la traînait sur l'air du logis, par les cheveux. Tantôt il se tordait, suppliant et sanglotant à ses genoux. Cela dura des semaines. Puis, un matin, le bruit se confirma que Francette avait disparu et qu'au poste de douane, le préposé nantais n'avait pas répondu à l'appel. « Pardine, ils se sont accordés pour déguerpir ensemble !» déclara Thady Bourdet d'un ton farouche. « Depuis, on ne les a plus revus, ni ici, ni ailleurs. » Le parquet ouvrit une enquête, fit faire des recherches qui n'aboutirent à rien et finalement se désintéressa. Telle est l'histoire. « Et toi, demandai-je, ton avis ?» Et que le bonhomme, comme tu dis, « Mon avis, mon cher, est que le marais est grand et que les vasières sont profondes. Pressons le pas, veux-tu » Nous cheminâmes désormais en silence. Les magies du couchant s'étaient évaporées. L'immense plaine au menu carré symétrique avait pris le morne aspect d'un cimetière bien entretenu, où les tas de sel, proprement alignés, luisaient d'une blancheur de marbre funèbre dans la nuit.